Alors, je vais commencer par vous poser une question. Vous pouvez simplement le faire en levant la main. Qui est-ce que d'autre, qui d'entre vous rêve pendant la nuit? Une large majorité. Puis je vais poser une deuxième question. À qui Dieu a déjà parlé dans un rêve? Voilà, nettement moins de monde. Nettement moins de monde. Ce matin, on va prendre l'histoire d'un homme. C'est une des grandes figures du peuple d'Israël. Il a un nom qu'on n'utilise plus tellement maintenant, à part pour certaines personnes, mais il s'appelle Jacob. Et puis cet homme, il n'est pas en très très grande forme. Il a volé le droit d'aînesse de son frère aîné en lui faisant un petit subterfuge pas très très catholique ou pas très très honnête en tout cas. Et puis son frère, à juste titre, il n'était pas extrêmement content avec lui. Si bien que ce frère, qui s'appelle Ésaü, il s'est mis en tête qu'il fallait tout simplement le tuer. Donc ça fait un peu froid dans le dos, et généralement quand il y a quelqu'un qui pense ça de vous, vous n'êtes pas très bien dans vos baskets. Et puis la seule chose que vous avez envie de faire, c'est de prendre les jambes à votre cou et de fuir. Généralement, c'est ce qui se passe. Et puis c'est ce qu'est en train de faire Jacob au moment où on va le retrouver ce matin dans notre texte. C'est pour lui un moment de crise. Un moment de crise profonde, un moment de fuite, un moment d'errance. Un moment d'exil. Il est complètement perdu dans ses pensées, dans sa situation de vie. Il sait plus où aller. Il a bien un but d'aller chez Laban, son beau-père. Mais entre deux, vous imaginez tout ce qui doit se passer dans sa tête, la peur, l'angoisse certainement, différentes choses qui font qu'il est vraiment dans un état intérieur peu reluisant. Puis à travers toute la Bible, c'est assez intéressant parce que c'est pas le seul personnage à qui ça arrive d'être dans ces moments-là de détresse intérieure, d'exil, d'errance. Et puis que dans ces moments-là où toutes ces certitudes semblent voler en éclats, semblent disparaître, Dieu se révèle de manière particulière. Et voici ce qui lui arrive dans ce moment d'errance. Donc un homme en fuite, et puis il cherche la sortie de secours. Et voilà ce qui lui arrive. Jacob sortit de Beersheba et il alla à Haran. Ça, c'est son but. Et il arriva à un certain lieu où il passa la nuit, car le soleil s'en était allé. Première chose qui m'a interpellé dans ce texte, peut-être que dans vos Bibles, ce n'est pas exactement noté la même chose, mais c'est ce que j'ai mis en jaune là, que j'essaie de surligner. La Bible nous parle d'un lieu. Et puis, c'est certainement la traduction que vous avez dans vos Bibles, un lieu comme quelque chose d'indéterminé. Puis, des fois, j'ai quand même envie d'utiliser les longues études que j'ai faites en hébreu. Et puis, on remarque qu'il y a des fois des petites différences qui sont significatives puis porteuses de sens. Parce que dans le texte hébreu, en fait, on se rend compte que ce n'est pas un lieu pris au hasard. Mais que ce lieu, dans le texte hébreu, il est déterminé. C'est-à-dire qu'il faudrait plutôt traduire par en un certain lieu. Puis, c'est le genre de question qui titille, puis qui titille aussi les rabbins. Alors, pourquoi est-ce que Jacob, qui est complètement perdu, il arrive dans un lieu qui est déjà déterminé? Que faire de cette détermination alors que Jacob, il est complètement perdu? Parce qu'il est en effet en plein désert, il est perdu dans ses pensées, dans ses actions, il est perdu dans sa vie. Pour Jacob, c'est sûr que pour lui, ce lieu-là, il n'est absolument pas déterminé. Pour celui qui raconte l'histoire aussi, ça n'a pas l'air d'être beaucoup plus clair que pour Jacob. Il semble tout aussi perdu que lui. Il reste finalement, si on réfléchit bien, qu'un seul acteur du récit et du texte biblique pour qui ce lieu doit être déterminé. Pour lui, ce Dieu n'est ni inconnu ni indéterminé. Alors que Jacob est perdu, d'après moi, il y a un acteur qui n'est pas perdu. Vous avez certainement deviné de qui il s'agit. Il s'agit de Dieu. Si Jacob est perdu, Dieu ne l'est pas. De même, il n'a pas perdu de vue son enfant qui pérégrine et qui prend la fuite. Ainsi, puis c'est la première promesse que ce texte nous laisse, Dieu nous précède sur nos lieux de vie. Dieu nous précède sur les lieux où nous allons, même lorsque nous, on est complètement perdu, même lorsque nous, on est en exil, même lorsque nous, on est en fuite. Finalement, Dieu, il a déjà fait le chemin avant nous. Il connaît la route et il connaît notre route. Tout partout où nous allons, tout partout où nous irons dans le futur, nous pouvons dire comme ce texte que nous nous sommes rendus en un certain lieu. Et plus nous nous sommes rendus en un lieu inconnu. Avant le GPS, c'est-à-dire il y a très très longtemps, quand on faisait un voyage en voiture, c'était toujours rassurant de savoir si quelqu'un dans la voiture connaissait la route. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, quand on disait « Alors c'est bon, il y a tel et tel, il connaît la route. C'est bon, on peut y arriver, on va y arriver, on ne sera même pas trop en retard. On risque de ne pas se perdre. Et puis, on va diminuer de manière drastique les risques de retard, justement. » Dans nos vies de foi, il est précieux de pouvoir se dire exactement la même chose. Dans nos vies de foi, il est précieux de pouvoir se dire que Dieu, déjà, connaît la route. Que Dieu déjà sait où nous allons mettre nos pieds et que quelle que soit notre situation, quel que soit notre état intérieur, quelles que soient nos pensées, Dieu connaît la route. Même lorsqu'on est perdu, même lorsqu'on est dans un lieu inconnu, on ne peut que se rendre compte, après coup certainement et souvent, qu'en fait il est déjà habité ce lieu par la présence de Dieu. Et ça change tout. Ça change tout que de savoir qu'on n'est jamais seul sur ce chemin et que Dieu nous précède sur nos lieux de vie. Et ces lieux de vie, il y a quelque chose d'interpellant aussi quand on y réfléchit un peu. Là, j'ai pris deux lieux de vie que, un, certainement, vous reconnaissez. L'autre, je ne vais même pas vous poser la question où c'était. C'était durant mes vacances. Mais celui de gauche, c'était pour moi un lieu inconnu. Et puis, il se peut, et puis c'est presque même une obligation, que dans nos vies, on passe par ces lieux inconnus, par des détours, par des chemins non désirés. Pour moi, c'est tous des lieux, et puis beaucoup de personnages bibliques l'éprouvent de cette manière-là dans le texte, c'est des lieux que Dieu finalement a en réserve pour nous, même si de toutes nos forces, on voudrait éviter d'y aller. Ces lieux inconnus, qui par définition nous mettent mal à l'aise, nous mettent sur la défensive, c'est aussi des lieux que Dieu a prévu d'avance pour nous. Ce n'est pas des lieux qu'il nous faut absolument éviter ou dire « là, j'irai jamais ». C'est une constante d'ailleurs que l'on retrouve ces lieux inconnus chez pas mal de jeunes de notre communauté qui aiment bien aller faire 6 mois d'école de disciples ou 6 mois de stage en Angleterre ou 6 mois quelque part, voire plus si affinité. C'est des lieux qui permettent souvent de vivre une expérience forte avec Dieu parce qu'on quitte certains repères, on quitte certaines sécurités, on quitte la bonne cuisine de papa-maman et on est pris dans nos propres responsabilités. Peut-être que vous avez expérimenté ça, d'être un peu perdu, d'être un peu en désarroi et d'expérimenter particulièrement la présence de Dieu à ce moment-là. Puis pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde pour ressentir ces sécurités qui peuvent s'en aller. Il y a peut-être Guy qui va une fois vous raconter pourquoi il fait un stage, Guy de Bourbon qui est là, qui va peut-être vous raconter pourquoi il fait un stage ici. Lui, il n'a pas besoin de faire des kilomètres pour quitter certaines sécurités, mais il a décidé, en faisant ce stage ici parmi nous à la FRAT, de quitter certaines sécurités, un métier, pour se lancer dans quelque chose d'inconnu. Et pour moi, ces expériences dans ces lieux inconnus nourrissent la manière dont on vit dans nos lieux connus. C'est ce que j'essaie d'illustrer avec cette deuxième photo du bord du lac. Ces lieux connus, paisibles, qui nous font du bien, ces lieux connus, pour moi, peuvent être alimentés par les expériences qu'on a peut-être vécues ailleurs. Ces lieux connus, ils peuvent être habités par ce qu'on a vécu comme expérience forte dans ces lieux inconnus. L'un nourrit l'autre. Alors, il y a toujours un risque, dès qu'on parle de ce genre de choses, ou des tendances qui nous sont assez profondes. La première, je dirais que c'est de rechercher à tout prix ces lieux inconnus parce qu'ils nous procurent des sensations fortes et des expériences fortes. C'est une tendance assez naturelle parce qu'on se dit c'est tellement beau ce qu'on a vécu dans ce lieu inconnu que j'ai envie de le revivre assez fréquemment. Parce que Dieu était vraiment présent, Dieu était au cœur de ce que je faisais, puis j'ai vraiment que envie de vivre de ce type de moment-là. C'est un risque qui se passe. C'est intéressant de voir que pour Jacob, l'expérience qu'il va vivre à travers ce rêve qu'on va découvrir tout à l'heure. La prochaine fois qu'il vivra une expérience aussi forte que cela, ce sera 21 ans plus tard. Il doit attendre 21 ans de vivre une expérience aussi forte que ce qu'il a vécu durant ce rêve-là. Mais ces 21 ans qu'il a passé, il ne s'est pas éloigné de Dieu parce qu'il a vécu dans ce lieu inconnu, ça lui a permis de vivre sa foi dans ce lieu connu qui était le sien pendant ces 21 ans. Il n'a pas recherché à avoir toujours une expérience forte, mais il a pu se nourrir de son expérience dans ce lieu inconnu pour nourrir sa vie dans le lieu connu. À l'inverse, on peut se dire, on est tellement bien là, effectivement, si on regarde la photo au bord du lac, on est tellement bien, on est tellement dans l'harmonie, dans la paix, dans ces lieux connus. Pourquoi se risquer à aller dans des lieux inconnus et puis finalement se mettre en danger? Pourquoi, hein, alors qu'on est si bien? C'est une autre tentation, un autre risque que je vois dans cette dialectique un peu lieu connu, lieu inconnu de nos vies de foi. Et puis de se dire, peut-être parfois, on est un peu trop bien dans cette harmonie, dans cette paix, qu'on refuse peut-être même les pistes ou les chemins que Dieu nous propose. En l'occurrence, Jacob, il n'a pas tellement eu le choix. Mais peut-être que nous, on a un peu plus le choix que lui. On n'est pas dans des situations aussi extrêmes que lui. Mais on les sent très bien à ces moments où Dieu nous pousserait à aller un peu vers l'inconnu. Et puis on résiste de toutes nos forces parce qu'on se dit, ouh, là je vais prendre un risque. Je risque de quitter cette quiétude, cette paix, pour aller vers quelque chose que je connais moins bien. J'ai été interpellé par cette notion de lieu connu, inconnu, qui permet d'après moi de nourrir notre foi. Dieu, dans ces lieux inconnus, peut vraiment transformer le rien, l'errance, peut-être même le désespoir, en un tout, parce qu'il remplit ce lieu de sa simple présence. On a besoin de vivre ces deux types de lieux, ces deux types de moments. Par ces lieux inconnus nous permettent d'avancer au cœur des lieux connus et nous donnent l'assurance nécessaire pour être là, bien présent, au sein de ces lieux connus. Une dernière conséquence, c'est que dans tout ce qui va se passer dans la suite de ce récit, on va se rendre compte que l'homme n'a aucune prise sur Dieu. Jacob n'a aucune prise sur Dieu. C'est même lui plutôt qui se fait surprendre par Dieu. Vous allez voir, il décide rien, il fait que de se coucher à un endroit et toute la manœuvre est entre les mains de Dieu. Lui, finalement, il accepte et il accueille tout ce que Dieu fait pour lui. Dieu seul est à l'initiative. Dieu, donc, est la seule origine possible de la révélation qui sera faite à Jacob à travers ce rêve dont on a entendu parler dans l'introduction. Jacob n'a absolument aucune prise sur ce qui lui arrive et il est plutôt pris par surprise. Il y a là de nouveau une chose à bien comprendre pour notre vie de foi, c'est que souvent on est centré que sur nous-mêmes, tout ce qu'on pourrait faire pour Dieu, tout ce qu'on est amené à faire pour Dieu, même des fois avec des très bonnes raisons d'obéissance. Et on a peine à concevoir que certaines fois, on n'a juste aucune prise sur ce que Dieu fait dans nos vies. On peine à se laisser surprendre par lui. Et c'est finalement assez logique, parce qu'on est souvent dans une perspective de volonté, de prise en main de ce qu'on doit faire au niveau même de notre vie de foi. C'est aussi une invitation, ce texte, à nous laisser surprendre par Dieu, puis peut-être même à se laisser surprendre lorsqu'il nous parle à travers des rêves, des songes. Et c'est ce qu'on va voir un peu, comment Jacob se laisse surprendre par Dieu. Il fit alors un rêve. Un escalier ou une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Les messagers de Dieu ou les anges y montaient et y descendaient. Et le Seigneur se tenait au-dessus de lui. Il lui dit, « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, à toi et à ta descendance. Ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai vers cette terre, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'aie fait ce que j'ai dit. » Petit problème technique, normalement le foie devait être noir, mais bon, vous avez écouté quand même. Si jamais, c'est dans Genèse 28, versets 10 à 22, ce texte. « Je suis avec toi, Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai vers cette terre. Car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce que j'ai dit. » Voilà ce qui se passe dans cette fameuse expérience, dans cette rencontre initiée par Dieu. D'abord, il y a une image. L'image que j'ai essayé d'illustrer avec cette photo, qui est revenue à plusieurs reprises dans cette présentation. Cette image de cette échelle entre la terre et le ciel. Une image que peut-être nous on considère un peu trop logique. Mais dans le chant qu'on vient de chanter, là je ne sais plus lequel c'était, il était question d'un mystère de ce Dieu qui descend jusque vers nous puis qui nous rejoint. Si on y réfléchit juste un peu, ce Dieu créateur qui a tout fait, le ciel, la terre, ce Dieu de ta toute puissance, qui décide de venir sur terre puis qui descend avec nous, vers nous, à travers cette image de l'échelle, il y a quelque chose qui nous dépasse. Et c'est ce que vit Jacob. Pour la première fois, il peut faire sienne ces paroles de Dieu. « Je suis le Dieu de ton père Abraham, le Dieu de Isaac, ton père également. » Il lui faut cette révélation particulière et personnelle pour se rendre compte que cette échelle qui descend du ciel vers la terre, elle est aussi valable pour lui. Tout Jacob qu'il est, tout grand homme qu'il est, toute figure importante du peuple d'Israël, il a eu besoin de vivre cette expérience forte et de voir cette image qui était valable pour lui. Qu'est-ce qu'elle vous dit cette image ce matin? Qu'est-ce qu'elle signifie dans vos cœurs cette image? Et en quoi elle fait écho de ce que vous avez vécu avec Dieu durant votre vie? Elle est forte, hein? Se dire que Dieu descend à travers cette échelle et que cette échelle, elle n'est pas vide, elle est pleine de dynamisme avec des anges qui montent et qui descendent, qui font le lien entre Dieu et nous. On pourrait dire, nous maintenant, c'est le Saint-Esprit qui fait ce lien, qui propose ce dynamisme entre Dieu et nous. Non seulement il y a cette image de l'échelle, mais il y a aussi des paroles fortes où, pour la première fois, Jacob entend ces paroles de Dieu qui lui dit « Je suis le Seigneur ton Dieu à toi. Je suis aussi le Seigneur de ton père Abraham, de ton père Isaac, mais je suis aussi le Seigneur ton Dieu à toi. Pas seulement celui de tes pères. » Il y a besoin de cette expérience personnelle. Ce n'est pas le Dieu seulement de nos parents, nos grands-parents, peut-être qui nous ont précédés dans la foi ou pas. À un moment donné, ça doit venir le Dieu personnel. Et pour ça, on a besoin d'une révélation. On a besoin d'un moment où Dieu prend l'initiative et puis toque à notre porte et se dit, voilà, je te présente ça, ça, ça. Pour Jacob, ça a été une échelle. Peut-être pour vous, ça a été quelque chose d'autre. Mais il y a un moment dans nos vies indispensable où on doit dire, c'est mon Dieu à moi, pas le Dieu de mes parents. C'est ce que fait Jacob et c'est ce qui va lui permettre d'entendre la promesse et puis de la continuer, de la faire vivre, cette promesse de descendance, cette promesse de postérité sur toute la terre qui lui est confiée par Dieu. Il a besoin de l'entendre personnellement, sinon il était dans les choux, il était dans l'errance, comme on l'a trouvé au début du récit. Suite à cette promesse, à cette expérience forte, il va pouvoir vivre les choses complètement différemment. Et la dernière promesse qu'il lui laisse, les dernières paroles qu'il lui laisse, c'est ces paroles de dire, même dans ton errance, je suis avec toi tous les jours. Je ne t'abandonnerai pas. Dieu termine par ces paroles-là extrêmement fortes, où il dit, je suis avec toi, indépendamment de ce qui se passera. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai vers cette terre. Et puis ces promesses, ça me fait bizarrement penser à une autre promesse qu'on trouve dans l'évangile de Jean, au début du ministère de Jésus, lorsque Nathanaël est sous l'arbre et puis que Jésus l'appelle, puis il lui a dit « Je t'appelle depuis de sous le figuier » et puis Nathanaël il est complètement impressionné parce qu'il se demande comment Jésus a fait pour savoir qu'il était sous le figuier, donc il était déjà complètement impressionné. Puis voilà ce que Jésus lui répond « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Donc on voit là à quel point cette promesse de l'échelle, pour nous c'est clair, elle est incarnée, elle est mise encore à travers Jésus-Christ et ce qu'il fait pour nous. Et puis c'est ce qu'essaye d'exprimer un grand peintre qui s'appelle Marc Chagall, qui d'un côté, du côté gauche de ce tableau là, il illustre bien l'échelle qui concerne l'épisode que l'on a lu, du rêve de Jacob. Et puis du côté droit, je ne sais pas si vous distinguez, derrière l'aile blanche de l'ange, on voit une croix. Cette croix qui symbolise ben, effectivement ce que Jésus a fait pour nous, pour venir directement à notre rencontre, sur nos lieux de vie, là où nous sommes. Il y a vraiment un parallèle qui est saisissant entre ce rêve de Jacob et ces paroles de Jésus qui nous dit « Vous verrez le ciel s'ouvrir ». Est-ce que l'on croit qu'on voit le ciel s'ouvrir avec la venue de Jésus dans nos vies? C'est une excellente question qu'il est beau de se rappeler. Et puis, c'est beau de voir cette image où, effectivement, avec la foi en Jésus, on voit le ciel s'ouvrir et cette présence venir en nous, nous habiter. C'est aussi beau de voir que cette dernière promesse de « Je suis avec toi » que donne Dieu à Jacob, c'est exactement la même promesse que Jésus laisse à ses disciples à la fin de l'évangile de Matthieu, quand il dit « Ne vous inquiétez de rien, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Moi, je trouve assez extraordinaire de voir ces échos dans la parole. Quoi. On est dans le livre de la Genèse, on est dans l'évangile, une fois c'est Dieu qui parle, une fois c'est Jésus qui parle, et on a exactement les mêmes paroles profondes qui nourrissent notre vie de foi, qui nous permettent d'aller de l'avant. Il y a une cohérence dans toute la parole qui est absolument extraordinaire. Et puis ces jeux de miroir, c'est toujours impressionnant de les poser puis de les poser devant nos yeux. Que fait Jacob de cette expérience? C'est ce que nous dit la suite du texte. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit « Vraiment, le Seigneur est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. » C'est exactement ce que j'essayais de vous dire au tout début de cette prédication, quand on parle de un certain lieu. Ce lieu qui est déjà déterminé par Dieu, mais pas par Jacob. Ce Dieu qui est là avant nous, et souvent après coup, on remarque a posteriori qu'il a été là sur nos chemins de vie. Je ne sais pas si vous faites des fois un peu le retour sur votre vie de foi, ou bien votre vie tout court, et puis que vous voyez les moments, celui-là, 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 où Dieu s'est révélé, mais sur le moment, vous n'avez pas forcément tout compris ni tout remarqué. Mais après coup, on se rend compte que ces différentes pierres, elles sont posées et ces différentes pierres qu'on peut prendre pour soi lorsqu'il y a des moments plus compliqués, lorsqu'il y a peut-être des moments de doute. Ces pierres qui sont là, c'est un peu ce que Jacob s'émerveille de voir là quand il se réveille de son rêve. Le Seigneur était à ce lieu et moi, je ne le savais pas. Il eut peur alors. Il dit que ce lieu est redoutable. Ce n'est rien de moins que la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête, il en fait une pierre levée et versa de l'huile sur son sommet. Il appela ce lieu du nom de Beth-El, mais le nom de la ville avait d'abord été Luz. Et Jacob fit ce vœu, « Si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon père, alors le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait une pierre levée sera une maison de Dieu. Sur tout ce que tu me donneras, je te payerai la dîme. » La réponse de Jacob, pour moi, il y a trois éléments importants qui se dégagent. Puis ça peut aussi être notre réponse à nous. Quelques milliers d'années plus tard. Après sa révélation, Jacob ne reste pas les bras croisés. Sa première action, après la révélation de Dieu, c'est qu'il est capable de nommer les choses, mais même de renommer les choses. Ce qui était connu d'une certaine façon prend un autre nom, prend une autre couleur. Ce qui était connu sous le nom de Luz devient Bethel, la maison de Dieu, là où Dieu réside sur cette terre. Il a cette capacité de voir les choses habituelles avec des yeux neufs. C'est pas fréquent, hein, ce genre de rencontre. Puis je l'ai déjà dit, 20 ans plus tard, il va vivre une deuxième rencontre de ce type-là. Mais cette rencontre-là va lui permettre de vivre ses 20 ans chez son beau-père Laban, avec toutes sortes d'intrigues, avec toutes sortes de mauvaises expériences, parce que son beau-père va quand même le tromper, il va lui donner une autre femme par rapport plutôt que celle qu'il avait choisie, il va l'arnaquer quand il s'agira de lui donner une partie des troupeaux, il va retenir une partie pour lui. Et jamais, à aucun moment, Jacob ne va perdre la foi, ni de vue sa relation avec Dieu, parce qu'il a pu voir les choses différemment à ce moment-là. Je crois que pour nous, c'est exactement la même chose. On peut nommer les choses différemment parce qu'à un moment donné, on a décidé de se convertir ou de passer par les eaux du baptême et de voir ainsi la vie qui s'écoule avec ses bons et ses mauvais côtés de manière complètement différente. Là, le geste de Jacob doit nous inspirer. Ce qui m'interpelle aussi dans ce texte, c'est qu'il ne reste pas non plus les bras croisés par rapport à ce qu'il fait de ses mains. La pierre sur laquelle il s'est endormi, la pierre sur laquelle il a juste posé sa tête pour avoir un oreiller, ça devient le symbole de la présence de Dieu sur terre. Il ose poser des gestes symboliques forts pour pouvoir ensuite repasser là où il était allé. Il ose poser des gestes symboliques forts. Puis là, c'est peut-être une interpellation que je nous laisse ce matin. C'est de savoir si on a encore le courage de poser ces gestes symboliques forts, ou bien si pour nous, c'est plutôt un peu intérieur ce qu'on vit, et puis on ne va pas forcément en faire quelque chose de nos mains. Je trouve assez interpellant ce que fait Jacob, c'est qu'avec ses mains, il fait quelque chose et il le pose devant Dieu. De nouveau, on ne doit pas faire ça tous les jours. Je ne pense pas que c'est ça qu'on est appelé à faire. Mais de temps en temps, de pouvoir poser comme il a posé cette pierre devant Dieu, il a érigé cette stèle, pour pouvoir dire « là, il y a Dieu qui s'est révélé de manière particulière dans ma vie », ça peut être pour nous après ces points de repère sur lesquels on peut fixer nos regards quand on est dans des périodes plus compliquées. C'est un encouragement que je nous laisse de savoir quels sont les symboles tout concrets que l'on peut poser devant Dieu lorsqu'il y a quelque chose de fort que l'on a vécu avec Dieu, lorsque la révélation nous a impacté de manière forte. Et ainsi, on pourra faire mémoire, reconnaître les endroits de nos vies où Dieu a été particulièrement présent. Et puis finalement, Jacob, il a été témoin de ce que Dieu a fait dans sa vie. Jacob, il aurait pu dire, « Ben voilà, j'ai fait un rêve, je le garde pour moi, et puis je continue mon bonhomme de chemin de cette manière-là. » À travers ce geste, il est témoin, et puis ce qui nous permet, encore aujourd'hui, de nous souvenir de ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est aussi un encouragement pour nous, c'est que ces symboles, ce n'est pas forcément que personnel, il y a aussi une dimension communautaire et même de transmission de ce que Dieu fait dans nos vies. Jacob, il assume ses responsabilités de transmettre ce que Dieu fait dans sa vie, et puis il en fait profiter d'autres, puisque ça va devenir un lieu de pèlerinage, et puis pour nous, c'est un lieu de mémoire que même maintenant encore, on peut remettre au goût du jour. On peut remettre au goût du jour parce qu'on se laisse inspirer par ce qu'il a fait. Et puis, pour terminer ce message, j'aimerais, puis Marc, tu peux te mettre au piano, qu'on puisse prendre un temps un peu où on se laisse réinspirer par ces lieux, ces pierres blanches, dont j'ai mis une photo là pour illustrer, qui ont parsemé peut-être notre vie de foi. Qu'on puisse les faire remonter à la surface, qu'on puisse s'en souvenir. Puis si c'est peut-être le désert qui a peu de pierres blanches, que ce moment puisse être un moment où vous vous laissez particulièrement rejoindre par cette grâce de Dieu qui est encore et toujours, à l'heure où je vous parle, ce Dieu qui fait descendre des échelles vers nous. Ce Dieu qui fait descendre des échelles où des anges vont et viennent, où le Saint-Esprit vont et vient, qui fait ce lien entre le ciel et la terre. Qu'on puisse se souvenir de ces moments où peut-être ça nous a impacté fort dans nos vies, mais que peut-être si vous n'avez pas en mémoire ce type de moment, parce qu'on est tous sur des degrés différents au niveau de notre vie de foi, qu'on puisse pendant ce moment de méditation personnelle et silencieuse pouvoir faire descendre et accepter, reconnaître comme Jacob cette révélation qui nous est faite. On prend en ce moment toute simplicité de silence et de présence devant Dieu.